C'est beau, on est là tout ce soir. Bienvenue pour l'étude du lundi soir. On est dans Éphésiens. On est rendu au chapitre 5, les versets 22 à 33 qu'on va voir ici ensemble ce soir. Puis, mais avant d'aller plus loin, on va lire notre passage dans Éphésiens. Dans la fois, on avait parlé de se conduire d'une façon avec circonspection, c'est-à-dire en faisant bien attention pour racheter le temps, pour pas perdre des opportunités. Puis ça fait partie, c'est la continuité de ça maintenant, de comment marcher. On avait vu les cinq façons de marcher, mais ça se continue ici dans la pratique. Donc, on va lire les versets 22 à 33 de Éphésiens 5. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. On va demander au Seigneur son aide. Seigneur notre Dieu, on est devant toi ce soir encore. On te remercie pour tous ceux qui sont là présents. On te remercie pour ta parole, Seigneur. Puis on te remercie aussi pour ton esprit qui nous dirige dans ta parole. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est pas juste apprendre pour une connaissance intellectuelle, mais on veut vraiment que cette connaissance transforme nos vies pour qu'on puisse être de plus en plus agréable. Merci pour ton salut merveilleux. Merci parce que tu nous aimes et tu veux entrer en communion intime avec nous. Et tu l'as fait par ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Puis maintenant, tu veux qu'on soit près de toi. Puis on te remercie pour ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. OK, on commence ici dans les relations entre mari et femme. Puis ensuite de ça, bien, il y a enfants et parents. Puis après ça, il va y avoir les employeurs avec ou les employés avec les employeurs. Puis une chose qui est commune à toutes ces sphères-là dans notre vie, c'est la soumission. Puis la soumission, ben, c'est un principe que le Seigneur nous a donné. Il y a un principe d'autorité-soumission. Autorité-soumission, ben, c'est la structure même de la société que le Seigneur a faite. Mais c'est un mot qui n'est pas populaire. Tu sais, parler de soumission aujourd'hui, là, c'est pas populaire parce que c'est sûr qu'on est rebelle dans notre naturel. On est rebelle à cause du péché. On est rebelle, mais donc c'est un mot qui touche un point sensible dans nos vies. Si on parle de soumission, là, c'est pas vraiment populaire. Mais la rébellion, c'est le contraire de la soumission. Mais la rébellion, c'est la racine même du péché, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui nous empêche de se soumettre. Puis, mais on veut être indépendant. Puis c'est comme ça qu'on voit l'expression ultime, on la voit dans Luc 19, 14. Il dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est ce que le Seigneur, il donnait une parabole, puis c'est ce qu'il disait, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. On sait vraiment, c'est le Seigneur Jésus qui nous a été donné par le Père. Puis, dans notre état naturel de rébellion, bien, on ne veut pas se soumettre à lui. Parce qu'on fait partie d'une rébellion qui a commencé avec Satan. Satan n'a pas voulu se soumettre à Dieu. Puis, nous, on est entrés là quand on a désobéi à Dieu, quand Adam et Ève dans le jardin ont désobéi. Ils sont devenus, sont allés du côté de la rébellion. C'est le contraire de se soumettre là. Puis, quand on voit dans Éphésiens 2, 3, quand il nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc on était naturellement dans notre naissance, quand on est né physiquement, on est né dans cette rébellion-là, parce que on est tous des pécheurs. puis on était en rébellion contre Dieu. Mais c'est un mot même que on est au point qu'il y a de l'hésitation à prononcer ce mot-là, même dans un mariage. On parle ici de relations entre femme, mari et femme, puis on a une hésitation à mentionner le mot soumission aujourd'hui parce que c'est pas populaire dans le siècle dans lequel on vit, là. Donc c'est, mais dans un sens, c'est pas juste la femme qui doit se soumettre aussi. On va en venir, c'est sûr qu'il y a eu des difficultés avec ça, mais c'est pas juste la femme qui doit se soumettre. C'est pas juste la femme qui doit se soumettre. On voit dans le chapitre 5, au verset 21, regardez ce qu'il a dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc c'est la soumission, c'est quelque chose qu'on doit tous se soumettre. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des autorités qui ont été mises en place. Puis, quand il y a une autorité, ben, il doit y avoir la soumission à cette autorité-là. On voit aussi avec les gouvernements qui ont été mis en place par le Seigneur qu'on doit se soumettre. Puis, c'est sûr que dans notre être, dans notre naturel, on n'aime pas se soumettre. On aime se rebeller. Mais le Seigneur, il nous demande ici de se soumettre. Après tous les enseignements des premiers chapitres d'Éphésiens, là, ici, il nous donne trois sphères dans lesquelles on doit mettre cet enseignement-là en pratique. De l'autorité soumission dans le mariage, ça c'est mari et femme, dans la famille, parents et enfants, dans le travail, c'est employeur-employé. Mais dans ces trois sphères-là, l'instruction commence par celui qui est en position de soumission à l'autorité. Comme ici, il commence avec la femme. Après ça, pour les enfants, il commence avec les enfants, pour les serviteurs. Puis après ça, mais ensuite de ça, il donne l'instruction pour celui qui est en autorité, la sphère de celui qui est en autorité ici, là. Donc, c'est sûr que l'abus de la part de ceux qui ont été en autorité, bien, ça n'a pas aidé pour que la soumission soit là, là. Puis, parce que s'il n'y a pas eu l'abus, on sait que auparavant, on enseignait à la femme d'être soumise, mais on n'enseignait pas à l'homme comment être un bon chef, le bon chef de sa famille. Puis il y a eu des abus, puis ça a fait en sorte qu'il y a eu une rébellion qui est venue à cause de ça. On parle du féminisme qui est arrivé dans le monde, puis là, les femmes n'ont plus voulu se soumettre parce que les maris n'ont pas été, je parle en général parce qu'il y en a qui ont été des bons maris, qui ont pris soin de leur femme, de leur famille, mais en général, on voit que la femme était laissée à la maison, puis le mari faisait ce qu'il voulait, mais ça, ce n'est pas l'enseignement qu'on voit ici, là. L'enseignement, c'est vraiment, on va le voir, que même il y a beaucoup plus d'instructions pour le mari que pour la femme. De se soumettre. Donc, c'est sûr que l'abus de la part de ceux qui ont été en autorité n'a pas aidé. Donc, l'instruction pour l'autorité est très importante aussi. Puis on va en venir à ça, là, mais c'est très important que celui qui est en position d'autorité, il y a des instructions vraiment sérieuses ici. Mais dans le passage devant nous, ben, c'est la femme, Marie, c'est la femme et le mari qui est important, là. Car le Seigneur nous montre qu'il est à l'image, cette relation-là, là, elle est à l'image de la relation de Christ avec son Église. Donc, c'est une relation qui est très importante ici, le Seigneur a fait en sorte que le mariage puisse décrire. Des fois, on va dire que la relation entre Christ et son Église est comme le mariage, la relation dans le mariage. Mais c'est vraiment la relation de mariage qui est à l'image de la relation de Christ et son Église, parce que la relation de Christ avec son Église est plus importante. Mais pour les gens dans le monde qui ne lisent pas la parole de Dieu, ils ne voient pas cette relation-là du Christ avec son épouse, avec son Église. Mais ils peuvent le voir à travers notre relation qu'on a, nous, entre mari et femme, ceux qui sont mariés. Mais ça fait partie aussi de notre marche dans le Seigneur. C'est très important, là. C'est notre marche dans le Seigneur. Donc, on ne doit pas imiter le monde, mais on doit imiter l'instruction de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne l'instruction, puis on doit marcher selon les instructions de la parole de Dieu. Si on ne le fait pas, si on imite comme le monde, bien, on va manquer le but de démontrer comment Christ a aimé son Église, puis qu'il s'est livré lui-même pour elle, puis comment cette Église-là, qui a été gagnée à l'amour de Christ, elle se soumet de cœur au Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne doit pas imiter le monde, on doit imiter la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur a choisi d'instituer le mariage pour donner une leçon d'objet, pour que le monde qui ne lise pas la parole de Dieu là, puisse avoir une représentation de la relation que Dieu veut avoir avec l'homme. Ça, c'est important. Au verset 22, il nous dit, Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc, la soumission ne dépend pas de la façon d'être de son mari, mais de sa relation avec le Seigneur. C'est vraiment ce qui prime ici, c'est sa relation avec le Seigneur. Elle le fait par amour pour le Seigneur. Puis c'est sûr, comme on a dit, il y a eu des abus du côté des hommes, puis il peut y avoir encore des abus du côté des hommes quand on manque à l'instruction. Mais premièrement, là, notre relation dans le mariage, elle doit être en vue de notre relation avec le Seigneur. C'est ce qui est prioritaire ici. Si on va dans 1 Pierre, on est dans 1 Pierre 3, on va voir ici la relation de la femme, comment c'est envers le Seigneur. 1 Pierre 3, le verset 1 à 2. 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Okay. Ici, il dit, Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns, c'est-à-dire les maris, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voyez-vous, ça, c'est un grand prix devant Dieu que cette façon-là de se soumettre-là par motif de conscience envers le Seigneur. C'est sûr qu'à un moment donné, l'homme va avoir à rendre compte devant le Seigneur. Mais pour la femme, elle, dans l'obéissance à son maître, puis cette attitude-là, il parle ici de gagner son mari sans parole. Parce que c'est quelque chose qui est, c'est tout un témoignage puissant là, de faire ça, là. Donc, mais il y a une chose qui arrive là-dedans. On dit, oui, la femme doit se soumettre à son mari, mais la femme a le choix de à qui elle va se soumettre. Ça veut dire que la femme a le choix de dire à l'homme qui propose. Si c'est à elle de vérifier s'il va être un bon mari, s'il va bien prendre soin d'elle, s'il va être quelqu'un auquel elle va avoir de la facilité à se soumettre, s'il va prendre soin d'elle. Donc, avant le mariage, elle a le choix de dire oui ou non. Fait que c'est bon pour une fille de bien choisir. C'est-à-dire que si quelqu'un lui propose le mariage, puis il y a des filles qui s'engagent dans le mariage sans vraiment réaliser qu'ils vont avoir une vie difficile, là, parce qu'ils s'engagent avec quelqu'un qui va leur donner de la misère. Mais c'est important qu'elles puissent vraiment penser à cela comme il faut avant de dire oui là, à celui qui lui propose le mariage. Mais maintenant, on va au verset 23-24, il dit, Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ici, c'est l'ordre établi. C'est l'ordre que Dieu a établi. C'est pas l'homme qui établit cet ordre-là, mais c'est Dieu. Puis il en est ainsi parce que Dieu l'a décidé comme ça. Puis il veut démontrer ici, comme on a dit tantôt, il va démontrer sa relation, la relation de Christ avec son Église. Puis l'Église doit se soumettre à Christ. Si elle ne se soumet pas à Christ, elle va avoir des problèmes. Mais quand on va voir tantôt le rôle de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il joue parfaitement le rôle d'autorité, puis il s'est donné lui-même pour son Église. Vous savez, on n'est pas prêt à se soumettre au Seigneur à moins d'avoir été brisé. Parce que, comme on a dit tantôt, on est dans la rébellion, on est des gens rebelles. On veut pas. C'est pour ça de parler de ça à des inconvertis, ils voudront pas se soumettre aux directions ou aux instructions du Seigneur. Mais du moment qu'on a connu le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, puis qu'on a été brisé devant lui, on a reconnu notre tort, on a reconnu son amour pour nous. Après ça, là, on est prêt à se soumettre à lui. Là, il est notre Seigneur. Ça fait que notre Seigneur. le Seigneur Jésus, il disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Quand on l'a reçu comme notre sauveur, bien, on est prêt à se soumettre à lui comme notre Seigneur aussi, parce qu'on voit que tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre bien. Puis tout ce qu'il a fait pour nous, il s'est donné lui-même, on va le voir en avançant ici, là. Donc ici, il est question de la structure de la relation. Comme il l'a dit ici, c'est le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dieu est un Dieu d'ordre. Puis ces instructions-là vont faire en sorte qu'on va vivre dans l'ordre qui va manifester le caractère de Dieu. Donc, c'est sur le modèle de la structure de la relation de Christ avec son Église. Puis ça, c'est un principe là, qui est vraiment important dans toute la société. La société aujourd'hui fonctionne pas bien parce que ce principe-là est pas bien respecté. Ceux qui sont en autorité n'ont pas toujours, c'est pas toujours des bons autorités. Ils agissent pas toujours comme il faut. Puis ceux qui sont en position de soumission ne se soumettent pas non plus. Donc ça fait un peu le désordre. Ça crée un désordre. Et vous, Seigneur, il a mis le Seigneur Jésus-Christ comme chef de l'Église au chapitre 1 d'Éphésiens, et versets 22 à 23. Ça, c'est le choix de Dieu, là. Parce que le Seigneur Jésus s'est humilié, mais il dit au verset 22, il a tout mis sous ses pieds, c'est Dieu. Il a tout mis sous ses pieds, le Seigneur Jésus-Christ, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, le Seigneur Jésus a été placé par le Père comme le chef suprême de son Église. Puis, dans les religions d'hommes, on voit que c'est la religion ou les chefs religieux qui se placent en autorité au-dessus de Christ. Puis ça fait un désordre ici, là, comme avec les témoins de Jéhovah, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui est en autorité. Mais selon les témoins de Jéhovah, c'est la Bible selon la tour de garde. La tour de garde a prééminence au-dessus de la parole de Dieu. Dans les Mormons, c'est Joseph Smith. C'est la Bible selon Joseph Smith. Dans les Adventistes, ben, c'est la Bible selon Ellen White. Puis ainsi de suite, là, on voit ça, là. Puis comme dans la religion catholique, ben, c'est l'autorité de l'Église. Hein. On se souvient qu'il y avait les commandements de Dieu, mais il y avait les commandements de l'Église. Puis quand on met au-dessus de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, autre chose. Puis on le voit aussi dans l'Apocalypse, quand le Seigneur, dans l'histoire de l'Église, dans le chapitre 3, 3, verset 20, il dit, non, dans le chapitre 2, verset 20, c'est quand l'Église a commencé à avoir l'autorité prendre l'autorité sur la parole de Dieu. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est là que l'Église a commencé à prendre l'autorité au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de se soumettre au chef suprême de l'Église, elle a commencé à dicter la façon de fonctionner pour ses membres. Mais au verset 25, ici, on arrive, là maintenant, c'est le rôle des maris. Comme on dit, il y a juste trois versets pour instruire le rôle de la femme. Mais là, maintenant, pour les maris, c'est le verset 25 à 33. Donc, c'est toute une instruction. Puis, c'est pas facile ici, là. C'est beaucoup plus long. L'instruction est beaucoup plus longue, puis plus solennelle. Moi, je dis souvent, c'est bien plus facile de se soumettre que d'avoir à diriger. C'est bien plus facile. Des fois, il y a des situations quand on dirige que celui qui est en autorité, il y a des situations qui ne sont pas faciles à gérer des fois. Puis, comme le mari, ça veut pas dire qu'il va toujours bien faire. Il peut faire des erreurs. Comme dans l'Église, les anciens peuvent faire des erreurs. Les employeurs peuvent faire des erreurs. Les parents peuvent faire des erreurs. Mais dans un sens, on doit essayer de faire le bien selon les instructions. Mais le Seigneur, il a quand même mis cette autorité-là ici, là. Mais pour que l'homme puisse vraiment jouer son rôle comme le Seigneur lui demande de le jouer, bien, il doit apprendre du modèle parfait. Le modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus, qui est chef de son Église. Puis lui, c'est le modèle parfait. On peut apprendre beaucoup du Seigneur Jésus-Christ. On peut apprendre du Père aussi, comment être des bons pères. Bien, on a un Père dans le ciel qui est vraiment bon, puis il peut être notre modèle, vraiment merveilleux. dans le Seigneur Jésus, lui, dans Philippiens 2, on voit comment est-ce que le Seigneur Jésus était. Puis ça, c'est une bonne instruction pour nous autres. Dans chapitre 2, au verset 4, les versets 4 à 8, il dit, puis même le verset 4 ici, comment il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Fait que là, on a déjà un bon principe, là. Au lieu de considérer nos propres intérêts, on est porté à faire ça dans notre égoïsme, de considérer nos intérêts. Mais il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Puis après ça, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et vous, là, ici, on a vraiment l'exemple parfait, là, du modèle parfait de celui qui est en autorité, parce que lui-même s'est soumis à son père. Puis de même, le mari aussi, s'il est en position d'autorité, il doit se soumettre aussi au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui lui demande, qui lui a délégué cette autorité-là, puis il doit vraiment la faire comme ça. Il y avait un jeune homme il venait de se marier, puis il était allé à M. Ironside, puis il avait peur, il avait dit qu'il avait peur de trop aimer sa femme, parce qu'il avait peur que ça devienne comme de l'idolâtrie, là. Puis M. Ironside, il lui a demandé, il dit, est-ce que tu l'aimes comme Christ a aimé son Église, puis qui s'est livré lui-même pour elle? Ben, il dit non, mais il dit, tu ne l'aimes pas assez. C'est que c'est vrai. Le Seigneur, il nous donne ici le mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé son Église. C'est tout un modèle, là. C'est quand je pense pas qu'il n'y a personne de nous autres qui peut dire qu'on a atteint le but, là, encore, là. Il faut vraiment regarder à notre modèle parfait. Mais l'amour dans la Bible est toujours manifesté par le don. Et vous, il dit au verset 25, il s'est livré lui-même pour elle. Il a aimé son Église, il s'est livré lui-même pour elle. Puis on a toute l'histoire, là, du Seigneur Jésus qui était comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a souffert, comme sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang en anticipation. Puis tout ça, il l'a fait par amour pour son Église. Il l'a fait par amour pour son Père, mais il l'a fait aussi par amour pour son Église. Chacun de nous, on peut dire qu'on a été aimé. Dieu prouve son amour envers nous parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, il s'est vraiment livré lui-même pour elle, là, ici, là. On voit maintenant le processus. Donc, premièrement, il s'est livré pour elle pour qu'elle soit sauvée. Ce qu'il a offert, c'est le sacrifice ultime. Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a versé son sang. Il est mort. Il a été enseveli, mais il est ressuscité. Ça, c'est pour son Église qui a fait ça. Mais ensuite de ça, le travail continue, là. Il dit au verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ici, c'est le processus, là. Afin, tout ça, ce processus-là, est afin d'arriver à un résultat. C'est ça le but, là, c'est d'arriver à un résultat. C'est quoi? Ben, pour le salut, ben, il l'a purifié. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le Seigneur Jésus a purifié son Église. Puis ensuite de ça, il parle en la lavant par l'eau de la parole. Donc, il la lave par l'eau de la parole. C'est un travail. Au début, il s'est offert pour elle, il s'est livré lui-même pour elle. Puis maintenant qu'elle est sauvée, là, il continue de la laver par la parole. Puis c'est ce qu'on fait ce soir, là. On regarde les instructions dans la parole de Dieu. Puis ça change. Comme il nous dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais comment qu'on est renouvelé dans notre intelligence? Ben, c'est par la parole de Dieu. Puis c'est ça qu'il dit ici, là, en la lavant par l'eau de la parole. La parole de Dieu comparée à de l'eau. Puis c'est un peu quand on pense à Pierre, quand le Seigneur est venu à eux pour leur laver les pieds, Pierre a dit, Seigneur, non, jamais, toi, tu ne me laveras pas les pieds. Puis le Seigneur a dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Ben, il dit, lave-moi tout entier. Puis le Seigneur a dit, non, celui qui a été baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Fait que le bain, c'est le salut quand on a été sauvé. Le lavage des pieds, ben, c'est quand notre marche, la poussière s'attache à nos pieds, mais on a besoin d'avoir les pieds lavés. En premier, c'était pour le salut. Maintenant, c'est pour la communion avec lui. On a dit la relation, elle ne se perd pas, mais la communion peut se perdre. On a besoin de confesser nos péchés pour que le sang de Christ ait cet effet-là pour nous purifier, pour qu'on puisse être en, puis nous laver, pour qu'on puisse être en communion avec lui. Mais il utilise la parole. Mais il utilise la parole pour le salut. Mais il utilise la parole aussi pour la laver ici par l'eau de la parole. Donc, quand on voit l'instruction ici, c'est quoi? Ben, on est responsable. Le mari est responsable pour sa femme. De faire d'elle vraiment quelqu'un qui va être spirituellement, elle va être au service du Seigneur. Puis, plus il va faire d'elle, plus il va prendre soin d'elle en se livrant pour elle, puis en la lavant par la parole aussi, ben, puis il va avoir une femme spirituelle qui va vraiment l'aider, parce que la femme est l'aide de l'homme. Mais il faut que l'homme soit un bon dirigeant aussi, il faut que lui soit impliqué. Je disais à un jeune homme qui se mariait, puis il professait le salut, puis elle aussi, mais il ne faisait pas partie de l'assemblée, il avait pas encore fait ce pas-là de se joindre à l'assemblée pour participer à l'œuvre de Dieu. Puis j'ai dit, regarde, là c'est toi qui vas être le chef de cette famille-là. Mais spirituellement, tu n'es pas là. Tu ne seras pas un bon chef spirituel parce que tu n'as pas encore pris position pour le Seigneur. Puis il m'a écouté. C'est ça qu'il a fait. Il est allé, il a mis sa vie en règle, il s'est joint à l'assemblée. Puis là, j'ai dit, bon, ben là, tu peux être un bon chef spirituel pour ta famille. Ça, c'est important parce que, mais l'homme est responsable de prendre soin de sa femme au point, ben c'est sûr, au point de vue physique, qu'il prenne soin d'elle, puis qu'il pourvoie pour elle, puis qu'il fasse en sorte qu'elle soit bien. Mais au point de vue spirituel aussi, il faut qu'il prenne soin de sa femme. Il faut qu'il lise la parole avec elle, qu'il passe du temps dans la parole avec elle, dans la prière, pour qu'elle puisse être à la hauteur, spirituellement à la hauteur de pouvoir servir le Seigneur. Puis en même temps, l'homme, il doit réaliser le don que sa femme a, parce que sa femme a un don aussi spirituel qui lui a été donné. Puis le Seigneur lui donne des ministères aussi à sa femme. On a tous des ministères, hein? Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions dans le chapitre 2 au verset 10. Mais le mari doit réaliser que sa femme aussi a un ministère pour le Seigneur. Puis il doit faire en sorte qu'elle va être équipée pour son ministère, puis elle va avoir ce qu'il lui faut pour qu'elle puisse performer dans son ministère à la gloire du Seigneur. Puis ça, c'est important ici, là. Il nous dit, 1 Corinthiens 5 au verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est important, c'est des instructions qui sont vraiment sérieuses ici que Dieu a données ici au mari, là. Parce qu'il faut qu'il prenne soin de sa femme, puis on va voir, il va falloir qu'il prenne soin de ses enfants aussi. Puis la femme aussi, il va falloir qu'elle prenne soin des enfants. Mais il doit, premièrement, la relation du mari avec sa femme, ben ça, c'est une relation qui est au-dessus de toutes les autres relations, là. Il avait dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, ça devient une relation plus importante que sa relation dans sa famille à lui. Mais aussi, ça va être une relation qui va être plus importante que la relation même avec les enfants. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les enfants, mais la relation entre le mari et la femme est au-dessus de cette relation-là. Donc, c'est afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi? Ben, il y a un but là-dedans, c'est le résultat qui est recherché ici. Le Seigneur Jésus, il recherche aussi un résultat en faisant ça pour son Église. Puis il dit au verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc le résultat recherché, là, ben, c'est pour que cette Église-là soit à la hauteur de lui. Lui est un grand sauveur. C'est remarquable qu'on voit que le Seigneur Jésus, dans l'éternité, Il va porter les marques des clous dans ses mains, puis son côté percé, ses pieds percés. Et c'est lui qui porte la marque du péché. Ce que le péché a causé, lui, il porte dans son corps pour l'éternité. Mais son Église, regardez, qu'est-ce qu'elle va être? Elle va être glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il nous dit aussi qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes ou des œuvres de justice des saints. Donc l'Église, elle va être belle, elle va être glorieuse. Mais pourquoi qu'elle va être belle, puis elle va être glorieuse, puis sans tache ni ride? C'est toute l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui l'a rendue comme ça. C'est lui qui a fait d'elle une épouse qui va être digne de lui. On voit comment il s'est investi, il s'est livré lui-même pour ça. Puis il a fait un travail merveilleux. Puis, vous savez, quand on va être présenté auprès du Seigneur Jésus-Christ, il dit, quand il viendra pour être glorifié dans ses saints, puis admiré dans tous ceux qui auront cru en lui. Le Seigneur, Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru, puis je suis persuadé qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce qu'il vienne. Puis il disait aussi, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul, il travaillait à ça aussi dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour amener les saints à la maturité spirituelle. C'est sûr qu'on est en cheminement vers là, présentement. Le Seigneur, il nous transforme jour par jour, puis il nous rend de plus en plus semblables à ce qu'on va être dans l'éternité. Mais quand il va venir nous prendre pour nous emmener avec lui, il va nous changer en un instant, en un clin d'œil. Il va compléter la sanctification. Puis à ce moment-là, on va être parfait comme on va être pour tout, comme il dit ici. Afin que pour faire paraître devant lui, quand on va paraître devant lui, là, cette église, elle va être glorieuse, elle va être sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Il nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Ben c'est Dieu qui justifie, c'est Christ qui justifie. Donc, c'est lui qui fait ce travail-là en nous ici, là. Mais donc, on est toujours dans la comparaison de ce qui est en rapport avec Christ et son Église, là. Mais ça se rapporte aussi entre le mari et la femme. Comment le mari doit prendre soin de sa femme. Vous savez, si le mari prend soin de sa femme comme ça, là, ben ça sera pas dur pour la femme de se soumettre à son mari. Parce qu'elle va savoir qu'il va la faire passer avant lui-même. Dans son intérêt, il va prendre soin d'elle plus qu'il va prendre soin de lui-même. Mais on voit ici que, parce qu'il va nous le dire aussi un peu plus loin, là. Mais ici on voit puis son but, c'est de faire de sa femme une beauté spirituelle. Comme Christ fait son Église une beauté spirituelle, cette Église-là va être vraiment glorieuse. Ben, l'homme aussi, il doit faire ça envers sa femme. Mais voyez-vous, au verset 28, il dit, car c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oui, parce qu'on voit ici la proximité de la relation. Mais nous autres aussi, là, on est le corps du Seigneur Jésus-Christ, chacun pour sa part. On lit ça, qu'on est le corps, on est les membres de Christ. Donc, on fait partie de lui. Puis, de la même façon, la femme fait partie de l'homme. C'est la proximité. C'est pour ça dans Genèse 2, 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais sont une seule chair. Puis, comme il dit, que l'homme ne, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Mais ici, c'est une proximité tellement grande entre l'homme et la femme. Parce qu'il n'y a pas de proximité dans une relation aussi proche que la relation de mariage. Parce que on devient vraiment un, là. Puis il faut le réaliser comme ça. Puis il dit qu'il va prendre soin d'elle comme son propre corps. Puis on prend soin de notre corps. Hein, si on se fait mal, ben, le reste du corps va se centrer sur le mal qui est dans, que ce soit un membre du corps. Tout le corps va s'associer dans le mal de ce membre-là ici, là. Donc, ici, il s'appuie sur un fait, là. Il dit, quand il dit là, au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, quand il dit d'aimer sa femme comme son propre corps, ce n'est pas ici un but à atteindre. C'est un fait. C'est un fait qu'on aime son corps, on prend soin de son corps. Puis, c'est ça que, de la même façon, il y a des gens, des fois, qui nous disent qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même pour qu'on puisse aimer les autres. Mais quand le Seigneur dit d'aimer son prochain comme soi-même, il ne dit pas d'apprendre à s'aimer parce qu'il dit, comme il dit ici, jamais au verset 29, jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc c'est un fait, ça. Le Seigneur, c'est une constatation. Il dit que jamais personne n'a haï sa propre chair. Il y avait quelqu'un qui disait, ben là, je m'aime pas. Puis c'est beaucoup dans la psychologie du monde aujourd'hui, il faut apprendre à s'aimer. Puis, mais on s'aime, on n'a pas de problème avec ça, on s'aime. Puis quelqu'un disait, si il dit, ben pourquoi tu t'aimes pas? Ben parce que j'ai un gros nez. Ben, si ton ennemi, là, si ton pire ennemi avait un gros nez, ça te dérangerait-tu? Ben non, ça ne te dérangerait pas du tout. Ben, c'est parce qu'on s'aime qu'on n'aime pas ça. On veut pas, on veut être bien, on veut être parce qu'on s'aime déjà. Puis on n'a pas besoin d'apprendre à s'aimer. On s'aime déjà. Il faut apprendre à aimer les autres comme on s'aime nous autres-mêmes. C'est important. Il s'appuie sur un fait, pas un but à atteindre ici, là. Il prend pour acquis qu'on s'aime déjà. Puis d'un amour assez profond pour en faire l'appui de son exhortation. Vous savez, quand on a une exhortation, c'est de pousser quelqu'un à arriver à un statut ou arriver à une position. Mais pour le faire dans la parole de Dieu, les exhortations sont toujours basées sur un fait. Puis ça prend, plus le fait est profond, bien, plus l'exhortation est forte. Puis là, ici, c'est ça, il se base sur le fait qu'on s'aime déjà. Jamais homme n'a haï sa propre chair. Donc, puis il en prend soin, comme Christ, puis même il dit, là, il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est fort, là, quand on pense à ça. C'est-à-dire qu'on aime notre corps autant que Christ aime son Église. Puis c'est ça qu'il nous dit ici, là. Il en prend soin, puis pour en faire l'appui de son. Mais. C'est ça qu'on disait tantôt, il y en a qui disent, ben là, il faut apprendre à s'aimer. Non, on l'a appris depuis notre naissance, là. Parce qu'il nous dit, hein, que dans les derniers jours, les temps seraient difficiles parce que les hommes seront égoïstes. Puis le mot égoïste, en anglais, c'est la traduction dit amoureux d'eux-mêmes. C'est ça que ça veut dire égoïste. Ça veut dire centré sur moi. Puis c'est ça qui est le problème dans la société, tout le monde est centré sur moi. Au lieu d'être, si on serait tous centrés sur les autres, là, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème dans la société. Il n'y aurait même pas besoin de police parce que tout le monde prendrait soin des autres. Mais on est porté toujours à revendiquer pour nous autres. Mais le verset, comme j'ai dit, le verset 29, il contredit la théorie du monde aujourd'hui qui dit qu'on a besoin de. Le problème, c'est qu'on ne s'aime pas puis qu'on a besoin de s'aimer. Ben, on s'aime. La parole de Dieu dit, jamais homme n'a haï sa propre chair. Puis il compare notre amour propre aux soins qu'on se prodigue à soi-même. On prend soin de nous autres-mêmes. Puis à ce que Christ, comme Christ, il fait pour son Église. Au verset 30, il nous dit ici, parce que nous sommes membres de son corps. Donc, il dit que Christ, il prend soin de son Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est quelque chose, on fait partie de lui. Puis quelle relation qu'il nous a offert là. Comme la femme est fait partie de l'homme, maintenant nous, on fait partie de l'Église. En Genèse 2, 23, il dit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est, quand Dieu a créé la femme, il a pris une côte du côté d'Adam, puis avec la côte, il a formé une femme. Puis là, quand l'homme a vu la femme, il a dit ici, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est Isha, dans l'hébreu, c'est Isha, puis homme, c'est Ish, parce qu'on a rajouté à Ish pour faire Isha. C'est ça, là, il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, elle fait partie de son corps, parce qu'elle était formée avec la côte qui était prise d'Adam. Fait que sa femme a fait partie de son corps. Fait qu'il faut qu'il prenne soin d'elle comme de lui-même, comme Christ le fait pour son Église aussi. Puis, parce qu'on fait partie de lui. C'est toute une relation que le Seigneur nous a offert ici, là. Regardez au verset 31, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ici, c'est la citation de Genèse, là. Mais de la même façon, l'homme ici prend sa responsabilité, puis il change du lien avec son père et sa mère. Avant ça, la relation était avec son père, sa mère, avec sa famille. Mais maintenant, c'est une relation qui vient au-dessus de cette relation-là. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas bien compris ça, là, qui n'ont pas mis la relation avec leur femme au-dessus de la relation avec ses parents ou sa famille, ben, il va avoir des problèmes dans son mariage. Il faut que maintenant sa femme devienne plus importante pour lui que son père, sa mère. Puis ceux qui manquent de faire ça, là, il faut qu'ils défendent, parce que, vous savez, des fois, ça arrive souvent dans des familles que la belle famille, ils vont être durs envers la femme. Pas toujours, heureusement, mais ça arrive parfois. Mais si ça arrive, là, il faut que le mari soit capable de dire non. S'il ne fait pas ça, s'il ne prend pas position pour sa femme, là, puis parce que là, elle est devenue, elle fait partie de lui-même, là. Puis s'il ne la défend pas, c'est comme s'il ne se défendait pas lui-même. Fait que c'est important que maintenant, sa relation avec sa femme, est au-dessus de toutes les autres relations, même avec ses amis, là. Puis, comme on dit toujours, quelqu'un qui a pas mis sa relation avec sa femme au-dessus de la relation avec des amis, il va avoir des problèmes. Parce que c'est sa femme qui vient en premier dans sa vie. Elle a une relation plus intime avec lui, puis il doit en prendre soin. Puis même dans 1 Pierre 3, tantôt on a lu par rapport à la femme, puis Pierre donnait une instruction à la femme, mais il donnait une instruction à l'homme aussi, comme Paul le fait ici, là. Il dit, attendez un petit peu, au verset 7 de 1 Pierre 3, il dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Puis dans d'autres traductions, il dit d'aimer sa femme selon la connaissance. Ça veut dire qu'il est responsable de connaître les besoins de sa femme pour les combler. Et c'est lui qui doit rechercher les besoins de sa femme pour combler ses besoins à elle. Parce que, puis, voyez-vous comment c'est important, comme avec un sexe plus faible, mais ici, le sexe plus faible, on est porté à dire, ah, ben, c'est comme dénigrer la femme, mais ce n'est pas de dénigrer la femme, c'est comme si on a du cristal, c'est fragile, mais c'est très précieux. C'est pour ça qu'il faut que ça soit traité d'une façon vraiment spéciale, parce que c'est quelque chose de très précieux, mais fragile. Puis la femme est comme ça aussi, c'est quelque chose de très, c'est quelqu'un, je ne dis pas quelque chose, là, mais de quelqu'un de très précieux, qui doit être traité avec délicatesse, puis d'une façon vraiment spéciale. Parce qu'il dit ici, avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Parce qu'au niveau de la relation avec Dieu, la femme est au même niveau que l'homme, là. Elle est aussi près de l'homme, de Dieu que son mari. C'est beau, c'est merveilleux d'avoir une femme spirituelle, une femme qui aime le Seigneur. Il y avait un des prédicateurs, une fois, il disait à sa femme, il dit, il faut que tu aimes le Seigneur Jésus plus que moi, là. Puis, parce que si elle va aimer le Seigneur Jésus plus que lui, ça va lui faire une bonne femme. Parce qu'elle va être soumise au Seigneur Jésus. Mais il dit, avec un sexe plus faible, comme devant hériter pour avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne viennent faire obstacle à vos prières. Fait que c'est important, là. Si dans ma relation avec ma femme, je ne prends pas soin d'elle comme je devrais le faire, ça va faire en sorte que ça va faire une entrave dans ma relation avec le Seigneur. Voyez-vous comment le Seigneur, il voit ça important, là? C'est tellement important, là. Donc, de la même façon, l'homme, il va prendre sa responsabilité, il va prendre soin de sa femme. Puis il va établir un lien qui va être au-dessus de tous les autres liens familiaux, là. Puis c'est elle maintenant qui va avoir la grande priorité dans son affection. C'est sûr, le Seigneur Jésus en premier, mais sa femme, il doit prendre soin de sa femme, puis elle devient supérieure à toutes ses autres relations qu'il peut avoir, là. C'est la relation avec sa femme. Au verset 32, il nous dit ici: Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc c'est un mystère ici qui est révélé. C'est un grand mystère, comme il nous dit. Puis il dit le modèle et la relation ici avec la relation de mariage. Au verset 33, il dit: Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ici, c'est la conclusion de l'argument qu'on voit ici, là. Que chacun prenne son rôle au sérieux. Puis si on prend notre rôle, par rapport au Seigneur, comme on a dit tantôt, mon rôle est premièrement envers le Seigneur. Je dois accomplir mon rôle indépendamment. Puis c'est quelque chose que moi, il a fallu que je comprenne au début de ma vie chrétienne. Puis on avait eu une conférence sur la famille, puis moi, j'en avais besoin. Parce que j'avais besoin de comprendre ça, que ma relation, la façon que je traite ma femme, ben, c'est par rapport à ma relation avec le Seigneur. parce que lui me le demande de le faire. C'est envers lui que je le fais. Donc, c'est indépendamment de ce que ma femme va être. Puis de la même façon pour la femme, indépendamment de ce que son mari va être, elle va le faire par motif de conscience envers le Seigneur. Puis quand on fait ça par motif de conscience envers le Seigneur, c'est pas pénible. Parce que l'amour du Seigneur, elle nous gagne, c'est ça. Fait que toujours un rapport avec ça, c'est toujours un rapport avec avec la doctrine qu'on a appris là, dans les premiers chapitres pour marcher, se conduire avec circonspection. C'est donc de racheter le temps, puis d'utiliser toutes les opportunités. Puis je pense toujours en s'examinant, là, on peut tout voir qu'on a des manquements, on a encore besoin de s'améliorer dans ces choses-là. Autant du côté de la femme, puis on le voit dans la relation qui est établie ici entre le mari puis la femme, c'est cette relation-là qui va devenir le modèle aussi pour les enfants, dans le modèle de l'autorité-soumission. Puis ensuite de ça, c'est le modèle qu'on retrouve aussi, c'est la base pour la société. Ceux qui ont appris à partir de la maison de ce principe-là d'autorité-soumission, ils vont fonctionner bien dans la société aussi parce que c'est le même principe dans la société, autorité-soumission, puis même au point de vue spirituel. Parce qu'au point de vue spirituel, l'autorité, c'est le Seigneur. Nous autres, on est en soumission au Seigneur. Ce que je m'arrête là pour ce soir, si on a je vous donne attendez un petit peu, je vous donne l'opportunité de pouvoir reprendre votre micro. Puis, si vous avez des commentaires ou des questions, on va prendre un temps pour y répondre.
Dans d'autres versions, on voit que par rapport à la femme, on parle de vase, hein, de vase plus faible, dans le sens de fragile, évidemment. Une poterie, c'est beaucoup plus fragile qu'un vase en bois, par exemple.
Ouais.
On parle de fragilité ici, hein.
Mais la fragilité aussi est en rapport avec le fait que c'est précieux. Il ne faut pas la briser. C'est comme tu dis, un vase de poterie, on fait attention pour ne pas le briser. On
Ouais,
va le faire.
la femme est plus délicate qu'un homme.
Puis c'est ça que c'est là qu'il dit de l'aimer selon la connaissance. Là. Quand tu parles avec sagesse, c'est de connaître. L'homme, il a la responsabilité de connaître la fragilité de sa femme pour en prendre soin selon ce qu'elle a besoin.
Les apôtres, là, comme Paul, est-ce qu'il y avait des femmes, eux autres, les apôtres?
Ben, Paul, on voit qu'il n'y avait pas de femme, mais il disait qu'il y aurait pu aussi en avoir une, comme les autres apôtres, comme Pierre, qui avait une femme aussi. On ne sait pas quelle est la situation de Paul. Il faisait partie du Sanhédrin, puis le Sanhédrin, il devait être marié. On ne sait pas si sa femme était morte ou ce qui était arrivé, mais on voit qu'il était seul. Mais le Seigneur l'a utilisé d'une façon. Ça n'aurait pas été facile pour Paul de se retrouver en prison ou dans des naufrages, sachant qu'il y avait une femme à la maison qui l'attendait. Fait qu'il y a des fois pour le service, pour le Seigneur, lui-même, il disait, il y en a qui sont eunuques de leur naissance, puis il y en a qui se sont fait eunuques ils se sont fait eunuques par les hommes, mais il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques pour le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Mais lui, Paul, il n'y avait pas de femme dans le temps qu'il était au service du Seigneur comme ça, là. Mais les autres apôtres, ça ne veut pas dire qu'il devait être. Il dit qu'il aurait pu en avoir une femme. Mais il avait choisi comme ça de ne pas en avoir. Mais Pierre avait une femme. Puis les autres apôtres aussi, il dit que les autres apôtres, il y en avait une aussi.
Merci.
J'aurais envie de faire un commentaire.
Ben oui, Lévi.
Merci
Manqué.
beaucoup. Merci beaucoup.
Okay.
Je remarque là, que la femme, Dieu, quand il l'a créée, il l'a donnée à l'homme comme une aide. Alors,
Oui.
si je remarque que la femme soit chrétienne ou pas, dans sa nature, elle est toujours disponible. Tendre vers son mari, y apporter des soins, y apporter de l'aide continuellement. Moi, ça m'impressionne, ça. C'est vraiment fort, ça, chez la femme. Elle accomplit la volonté de Dieu sans qu'elle s'en rende compte.
Ouais.
C'est curieux, hein?
Ben, quand on parle de l'amour de Dieu envers nous, là, il la compare à l'amour d'une mère pour ses enfants ou pour son mari.
Et je dois remercier Dieu pour ma mère, parce que mon père, c'est un homme sévère, un homme malin, mais j'ai jamais vu mon père dire une mauvaise parole ou se fâcher devant ma mère.
OK.
Jamais, jamais. Ma mère était toujours de bonne humeur, toujours bien mise. C'est comme si c'était toujours le dimanche chez nous.
Oui.
Et elle était heureuse, toujours heureuse, soir au matin. C'est une grande richesse, en tout cas.
Oui, ben, la mère, elle a toute une impression sur les enfants. Puis, moi, je sais bien que chez nous, ma mère était comme ça aussi. Puis, notre famille est toute unie. Mais il y avait sa sœur, puis c'est sa fille à elle qui me disait ça. Elle dit, nous autres, notre mère, elle nous a divisés et votre mère, elle vous a unis. Dans sa façon puis c'est en rapport avec sa relation avec son mari.
Je me souviens quand mon père travaillait beaucoup dans les chantiers et puis on n'était pas toujours sages, nous les enfants. On était malcommodes. Et puis ma mère parfois était découragée, mais je ne l'ai jamais vue fâchée puis nous disputer puis dire des mauvais mots. Jamais, jamais.
Non.
Elle s'en allait dans sa chambre puis elle pleurait.
Ah oui.
Puis là, j'allais la voir puis je lui disais, pourquoi pleures-tu, maman? Ça, là, ben, quand on est jeune, on ne comprend pas. Mais maintenant, ben, je comprends pourquoi qu'elle pleurait.
Ouais.
Elle avait un cœur de maman.
C'est ça. Puis c'est drôle comme il dit, Marie, aimez vos femmes. Mais la femme, comme tu dis, là, que chacun aime sa femme, mais la femme, il lui demande d'être soumise. Mais la femme, en général, elle aime son mari. C'est pour ça que c'est devant une femme, si tu attaques son mari, là, ben, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes avec elle, parce qu'elle n'aime pas que son mari soit attaqué comme ça, non? Puis ses enfants non plus. C'est une chose que moi, j'ai remarqué au début de ma relation avec Denise. Quand on a eu un enfant, là, elle a changé. Elle était centrée sur cet enfant-là pour prendre soin de lui, là. D'elle, c'est une fille. Mais moi, j'aurais resté plus comme avant, là, mais elle avait vraiment là, été centrée sur cet enfant-là. C'est dans la nature de la femme.
Oui.
On parle en général.
C'est ça, l'instinct maternel.
Oui, l'instinct maternel. Quelqu'un avait dit
Ça
d'autres
doit être
choses?
bientôt la fête des mères, hein?
Ben oui, c'est la semaine prochaine. Ben, c'est ce dimanche. Ouais. Mais c'est important. On a toujours à s'améliorer dans cette situation-là.
Moi, un peu comme toi, moi aussi j'ai eu un père qui était assez dur. Ben, ma mère, elle disait toujours, elle a eu une grosse famille, elle a 12 enfants. Elle a dit, le plus beau moment de ma vie, c'est quand j'ai élevé mes enfants.
Ouais. Ouais.
Vraiment une bonne mère.
Ouais. Ouais, il faut être reconnaissant pour ça, c'est sûr. Puis aussi
Ici,
pour.
là, il...
Oui.
Oui.
Vas-y, Donald.
Ouais, ben ici, il demande pas, Paul ne demande pas à la femme d'aimer son mari, parce que c'est naturel pour elle d'aimer son mari, tandis qu'il exhorte le mari à aimer sa femme, parce que c'est moins naturel, on dirait, pour les hommes,
Oui.
d'aimer leur femme.
Oui.
Par contre, en finissant, il va dire à la femme de respecter son mari.
Oui.
Ça aussi, c'est important.
Ben, puis on va le voir aussi dans la relation avec les enfants, là, que si la femme ne respecte pas l'autorité de son mari, mais qu'est-ce qu'elle enseigne à ses enfants? Ça,
C'est un
c'est là que
bon
ça
point,
se.
Donald, que tu apportes là. Vraiment bon.
C'est comme aussi les autorités qu'on a, c'est la même chose dans les autorités qu'on a, on voit ça aussi. S'ils ne se soumettent pas à l'autorité du Seigneur, comment est-ce qu'ils pensent que leur sujet va se soumettre à eux autres? Fait
Incroyable.
qu'ils brisent l'exemple.
Mais c'est un peu comme ça aujourd'hui. Satan est en train de diviser le noyau familial
Oui.
entre l'homme et la femme. et entre les parents et les enfants.
Oui.
De plus en plus, c'est le désordre dans la famille.
Oui.
Mais ce n'était pas comme ça au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Après ça, il dit, allez, procréez-vous, ainsi de suite.
Ouais.
Mais c'est plus du... le but de Satan, c'est de diviser ce que Dieu a uni. On le voit très bien depuis, moi je me rappelle, depuis que je suis jeune, comparé à aujourd'hui, il y a eu un gros changement dans la société, même ici au Québec.
Ah
Je
oui.
pense que les plus âgés d'entre nous, peut-être s'en rappellent un peu plus.
Ouais.
Et moi, quand j'étais jeune, le noyau familial, c'était très important, puis c'était, c'était vraiment mis en première ligne. Mais aujourd'hui, le foyer familial, ben, c'est
Désorganisé.
désorganisé, puis souvent, ben, c'est rendu avec une autre femme ou avec un autre homme, puis peu importe, c'est plus important aujourd'hui.
Oui, ça, c'est vraiment tragique, là.
Parce qu'on voit vraiment venir les signes de la fin avec ça, que le noyau familial, s'il est défait, ben, tu brises l'unité même
La société.
dans la société.
Exactement, exactement.
Oh.
La société se brise au niveau de la famille.
Oui.
Parce que la société est formée de familles.
C'est la famille qui fait
La
la
société
société.
commence dans le noyau familial.
Exactement. Puis c'est là qu'on apprend à vivre en société, on l'apprend dans la famille.
Oui.
Si on ne l'a pas appris dans la famille, bien on va avoir de la difficulté. Il y avait un jeune qui était au camp, puis lui, il dit qu'il ne soumettait pas à aucune autorité. Je lui ai dit, tu ne soumets pas à l'autorité de ta mère. Il y avait juste sa mère, il n'y avait pas son père. Il dit non. Puis j'ai dit, à l'école, tu ne te soumets pas à l'école, à ceux qui t'entendent. Non. J'ai dit, tu t'arranges pour avoir une vie difficile. Parce que j'ai dit, partout, on a toutes des autorités au-dessus de nous autres. Puis moi, j'étais rebelle aussi. Quand j'ai grandi, j'étais rebelle, puis je n'étais pas heureux dans la rébellion. Mais on trouve le bonheur dans la soumission. Dans la soumission, là, on est en paix. Puis, un peu comme mon frère disait, si les polices arrivent chez nous et on a fait du mal, ben là, on n'est pas content des voix. Mais si on n'a pas fait de mal, on est content des voix, il n'y a pas de danger.
Il y a juste un autre point avant de partir
Ouais.
que je trouve malheureux, c'est que ça entre de plus en plus dans les églises locales.
Exactement. Ouais.
Ça, je trouve ça triste parce que on commence à voir ça malheureusement dans les assemblées.
Ouais. Ah oui, si on n'a pas appris à se soumettre, on ne se soumettra pas non plus.
On ne soumettra pas aux anciens.
Pas juste aux anciens, entre nous aussi. Je veux dire, il y a des
Ouais.
divisions, c'est pas toujours la faute des anciens.
Ouais. Et comme ça, ils disent, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ou des fois, quelqu'un va nous faire une remarque, puis par orgueil, on ne l'apprend pas. Mais si quelqu'un nous fait une remarque, ben, si on l'apprend, ben, c'est pour notre bien. C'est pas toujours facile de faire une remarque, mais il faut la faire avec amour. Mais quand même, si je l'apprends, moi, ça va me faire avancer. C'est une remarque que quelqu'un me fait, c'est pour mon bien.
Premièrement, il faut être soumis au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est l'autorité. Puis dans la parole, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite, même si elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Merveilleux, hein? Il prend l'exemple le plus concret qu'une femme, là, elle n'oublie pas l'enfant qu'elle allaite, mais même si elle l'oublierait, le Seigneur a dit, moi je ne t'oublierai pas.
Et tout ça implique le fruit de l'esprit. Ça prend de l'amour, ça prend de la paix, ça prend de la patience, ça prend de la tempérance, ça prend de la douceur, etc.
Oui, c'est ça, c'est de manifester le fruit de l'esprit dans tout ça, ouais. À la gloire de Dieu.
Voilà.
Quand on a ces vertus-là dans nos vies, ça nous aide à la soumission, ça nous aide à l'obéissance.
Ouais, c'est ça.
Ça nous amène à la gloire du Seigneur. Hein.
Quand on voit quelqu'un de soumis, que ce soit un enfant ou qui est soumis, c'est un enfant heureux, mais un enfant qui est rebelle, il n'est pas heureux.
Ça
Nous avons le C plus facilement à se soumettre au Seigneur.
Eh oui. C'est ça, si on est rebelle au Seigneur. Pour ça, même dans des situations difficiles, vous savez, si, comme des fois, juste un exemple, la perte d'un enfant, il y a des gens qui s'en relèvent jamais de ça parce qu'ils n'acceptent jamais. Mais si on l'accepte comme étant la volonté du Seigneur, c'est pas que le Seigneur a, mais le Seigneur a permis que ça nous arrive, bien, on se soumet à lui, on dit Seigneur, regarde, c'est ta volonté. Ça enlève beaucoup du fardeau de se soumettre à lui. Parce que, ouais. Bon, notre temps est arrivé. C'est qu'on va s'arrêter avec.
Gérald,
Oui.
avant qu'on se laisse, j'aimerais ça qu'on prierait pour une de nos amies
Oui.
qui a su il y a quelques jours,
Qui est en fin de vie.
est en
Oh.
fin de vie,
Elle est jeune.
elle a le cancer du poumon,
Oh.
stade 4 avancé.
Oh,
On est allé la voir l'après-midi
wow.
ici à Buckingham,
Ouais.
puis on a commencé les traitements. En tout cas, c'est.
Ouais.
Tu voyais qu'elle était affaiblie, là, tu sais, puis
Ouais.
ça vient mal.
C'est quoi son nom?
Rachel. On a
Rachel.
commencé à lui parler de la parole,
OK.
mais comme elle affaiblissait beaucoup, on n'a pas
Ouais.
trop élargi. Mais
Ouais.
on a su par la suite que son amie qui nous connaît, comme quoi qu'elle a beaucoup, beaucoup apprécié qu'on lui parle du Seigneur. Fait
Oh.
qu'on puisse, que le Seigneur donne du temps, qu'on puisse aller lui parler
Oui.
avant qu'elle parte.
On y avait dit aussi après-midi, quand on est là-bas, c'est que on fait partie d'un petit groupe, okay, à travers le Québec. Ça l'a impressionné.
OK.
On se voit tous les lundis soirs, puis on va demander à ce groupe-là qui prie pour elle.
Oui.
Nous autres, mes Pichinettes, on croit beaucoup au pouvoir de la prière.
Oui. Oui.
Que Dieu agisse en son temps pour elle.
OK. On va prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole qu'on a pu regarder ce soir. Seigneur, oui, ça nous bouscule, puis on a besoin d'être bousculé pour se conformer à tes instructions. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont là, puis qu'on puisse apprendre, notre Dieu, de tes leçons, de devenir plus comme toi tu veux qu'on soit. Ce soir, Seigneur, on s'unit ensemble pour prier pour Rachel. Oui, c'est vraiment un moment difficile pour elle dans sa vie. Elle arrive à la fin. Puis, on te remercie pour l'opportunité que notre frère, notre sœur ont pu lui parler de toi, puis qu'elle a apprécié, Seigneur. C'est sûr que dans des circonstances comme ça nous fait réfléchir sur les conséquences de la vie, mais on te demande, notre Dieu, que tu puisses être avec Rachel, la réconforter, mais aussi lui montrer ton salut merveilleux, qu'elle puisse connaître le Seigneur Jésus, qu'elle se réjouir déjà en espérance, parce qu'en étant sauvée, elle va pouvoir le rencontrer face à face. Prends soin, puis donne l'opportunité aussi à notre frère Jean-Claude, notre sœur Ginette, de pouvoir encore passer du temps avec elle. On sait des fois que c'est fatigant, c'est épuisant, mais c'est important aussi. On te remercie pour ça, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui sont avec nous ce soir. C'est vraiment encourageant de se retrouver ensemble dans ta parole. Merci pour toutes les instructions que tu nous donnes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.